décryptage. Marie-France Chatin-Laroche.
Pierre-Jean Luizard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, historien, spécialiste d'histoire contemporaine de l'islam. Les Kurdes entre nationalisme et régionalisme au Moyen-Orient, c'est notre sujet aujourd'hui, tant il est vrai que la question kurde est une question qui dépasse largement ses frontières pour être une question finalement de géopolitique mondiale. Nous allons voir pourquoi. Pour mémoire, le Moyen-Orient est habité par des peuples divers, les peuples arabes ou arabisés, les Perses, les Turcs et les Kurdes, tous influencés par la civilisation islamique. Particularité des Kurdes, c'est une nation, un peuple qui n'a pas d'État. Il s'en était pourtant vu promettre un d'État au lendemain de la Première Guerre mondiale. On est là en pleine période de la partition de l'Empire ottoman et de la création des États modernes du Proche-Orient. Il n'en a rien été, les promesses n'ont pas été tenues. Elles étaient pourtant inscrites dans le traité de Sèvres de 1920. Mais finalement, Britanniques et Français étaient occupés à d'autres choses, leurs propres intérêts dans la région. Résultat, l'espace du peuplement kurde s'étend aujourd'hui sur une superficie d'environ 530 000 km². C'est à peu près la taille de la France. Il est partagé entre plusieurs États, principalement la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Également l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, la Kirghizie et le Kazakhstan. C'est bien cela, Pierre-Jean Luizard ?
Oui, tout à fait. Les Kurdes sont probablement aujourd'hui le dernier peuple, la dernière nation d'importance à ne pas être dotée d'un État. Et il faut rappeler que cet État avait été promis aux Kurdes par les Alliés au moment du démembrement de l'Empire ottoman. Et vous l'avez rappelé, c'était notamment le cas dans le traité de Sèvres de 1920 qui prévoyait un Kurdistan indépendant. Mais les conquêtes militaires de Mustafa Kemal,
le leader turc
qui part à la conquête de l'Anatolie, va finalement emporter la conviction des Alliés qu'ils ont tout intérêt à oublier leurs promesses faites aux Kurdes. Et le traité de Lausanne de 1923 annule les promesses des Alliés d'un Kurdistan indépendant, uni, et on va voir le Kurdistan ex-ottoman réparti entre trois États nouveaux sur les décombres de l'Empire ottoman, donc la Turquie moderne, kémaliste, l'Irak, donc à partir de 1925, le vilayet de Mossoul est rattaché au royaume hachémite d'Irak à majorité arabe, et la Syrie.
Et l'Iran ?
Historiquement, effectivement, les Kurdes étaient divisés entre les deux grands empires musulmans, l'empire ottoman et la Perse, et une partie importante de la population kurde vivait du côté iranien.
Alors il y a aussi une présence kurde en Arménie, Géorgie, je les ai cités tout à l'heure, mais là ils sont beaucoup moins nombreux et donc pas significatifs.
Alors, il y a une diaspora kurde à l'époque moderne qui a fait que les Kurdes se sont étalés au-delà de leur foyer traditionnel de peuplement, hein, qui est en gros les montagnes. Hein. Les Kurdes sont un peuple montagnard qui occupe en gros le tiers de l'est de l'Anatolie, de la Turquie, le nord de l'Irak, les provinces septentrionales de la Syrie et toutes les montagnes occidentales donc de l'Iran. Et les Kurdes se sont transportés donc au gré de leur migration au nord, notamment jusqu'à l'Arménie, l'Azerbaïdjan et même au-delà, donc dans des provinces d'Asie centrale où ils sont là effectivement des communautés isolées de leur foyer traditionnel d'origine.
Alors il y a, Pierre-Jean Luizard, 15 millions de Kurdes en Turquie où ils représentent à peu près 24% de la population du pays, 6 millions en Iran, 4 millions en Irak et quelques 800 000 en Syrie. Et puis vous parliez de la diaspora, il y a aussi environ 700 000 Kurdes, alors là, réfugiés en Europe. C'est bien cela, les chiffres sont ceux que vous avez aussi de votre côté, donc des répartitions globalement sur les quatre pays que nous mentionnions
oui,
en début d'interview.
Oui, tout à fait. Cela montre que dans le rapport de force démographique, le gros de la communauté kurde vit aujourd'hui en Turquie, avec 15 millions d'habitants et que l'Iran vient ensuite. Mais paradoxalement, c'est l'Irak qui n'a que 4 millions d'habitants kurdes qui, on va le voir, a octroyé aux Kurdes le maximum de droits. Peut-être parce que l'Irak était le pays où le rapport de force démographique était le plus favorable aux Kurdes. Hein, les Kurdes font environ entre 20 et 22% de la population irakienne et le pays également où le pouvoir et l'État particulièrement partir de 1925, à partir du rattachement de Mossoul au royaume d'Irak, où l'État est le plus faible, ce qui va favoriser un mouvement kurde et des revendications kurdes qui vont aboutir dans ce pays d'une façon telle qu'elles n'auront pas leurs correspondants, notamment en Turquie.
Alors Pierre-Jean-Louis Arc, qu'est-ce qui caractérise les mouvements kurdes dans les différents pays concernés ?
Alors, ce qui caractérise ces mouvements kurdes, c'est la naissance d'abord tardive du nationalisme kurde. Les Kurdes, de façon générale, ont peut-être un gros handicap, c'est qu'ils ont des élites intellectuelles et politiques très faibles. Le Kurdistan est extrêmement divisé en régionalisme très fort, très vivace. Et, on a là le souvenir de principautés kurdes qui, jusqu'au début du XXe siècle, ont été les identités premières avant même l'identité kurde. Le Kurdistan lui-même est traversé par des divisions linguistiques. Il n'y a pas de langue kurde uniforme. La majorité des Kurdes parlent un dialecte, le Kurmanji, qui est majoritairement parlé en Turquie et dans le nord de l'Iran, et une autre langue kurde qui a aujourd'hui un statut de langue officielle dans la région autonome du Kurdistan, le Sorani, s'écrit, lui, en caractère arabe, alors que le Kurmanji s'écrit en caractère latin. Donc on a une situation extrêmement hétérogène, marquée donc par des régionalismes très importants et marquée également par le fait que les Kurdes, dans chaque État où ils vont se retrouver, vont finalement se laisser happer par la politique locale, propre à chaque État, ce qui va aboutir à des mises en confrontation des Kurdes les uns avec les autres, avec notamment cette guerre fratricide entre Kurdes irakiens et Kurdes de Turquie, Kurdes du mouvement kurde Irak et Kurdes du PKK, comme ça va être le cas donc à partir du moment où les Kurdes de Turquie vont tenter de s'implanter en Irak pour y trouver un sanctuaire qu'ils ne pouvaient plus avoir sur le sol turc.
Alors cette division, Pierre-Jean-Louis Arc, des Kurdes que vous évoquiez à l'instant, finalement fait le jeu des puissances concernées, puisque personne ne veut d'un Kurdistan indépendant.
Personne ne veut d'un Kurdistan indépendant. Il est vrai que la question kurde est aujourd'hui au centre de la politique turque par l'importance de la communauté kurde de Turquie et également par l'importance des régions qui sont habitées par les Kurdes. C'est considéré aujourd'hui en Turquie comme une question vitale pour la survie de l'État turc et notamment par les élites kémalistes. Il faut ajouter que ces élites, qu'elles soient aujourd'hui kémalistes ou islamistes, considèrent le Kurdistan et les Kurdes comme partie intégrante donc de la Turquie. Et pendant très longtemps, le fait kurde a même été totalement nié par les élites politiques de Turquie, qui allaient même jusqu'à désigner les Kurdes comme les Turcs de l'Est ou les Turcs des montagnes. Et il faut attendre 1991 pour que la langue kurde soit pour la première fois autorisée, ce qui va favoriser l'éclosion d'une presse en langue kurde en Turquie.
Qu'est-ce qui s'est passé en 1991 ?
Alors, il y a effectivement en 1991 une loi qui passe et qui autorise en Turquie les langues non turques, régionales, donc l'arménien, l'assyrien, le kurde et un certain nombre de langues qui n'avaient pas droit de citer jusqu'alors, le grec également. Et le kurde va donc avoir droit de citer, mais d'une façon extrêmement limitée dans la mesure où il y a eu une telle politique d'assimilation que très peu nombreux sont ceux qui peuvent lire le kurde et notamment cette version moderne du kurde écrite en caractère latin puisque cette version a été codifiée finalement au début du XXe siècle.
Décryptage. Marie-France Chatin-Laroche.
Pierre-Jean-Louis Arc, qu'est-ce qui caractérise les partis kurdes dans les différents pays que nous avons évoqués, la Turquie, l'Irak, l'Iran, la Syrie ? Est-ce qu'il y a des aspects communs entre ces partis et quelles sont finalement leurs revendications ? Est-ce qu'elle est unique ou multiple ?
Il y a effectivement des aspects communs, troublants d'ailleurs, entre les différents mouvements kurdes qui chacun finalement se trouve confronté à des enjeux dans le cadre d'un État qui peut les mettre en confrontation les uns avec les autres. Et ces points communs, c'est la symbiose, pour ne pas dire plus, hein, l'osmose entre les mouvements nationalistes kurdes et le mouvement communiste. C'est le cas notamment en Irak et en Iran où on voit donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale émerger les partis démocratiques du Kurdistan, donc avec Mustafa Barzani en Irak et donc un parti démocratique du Kurdistan iranien un peu plus tard, donc en 1947. Et ces deux partis qui se développent à l'ombre des partis communistes locaux, donc irakiens et iraniens, vont être au début très difficiles à identifier, donc au point qu'on pourra même considérer qu'ils sont une filiale kurde d'un mouvement communiste régional et que c'est beaucoup plus tard qu'ils réussiront finalement à s'émanciper de cette tutelle idéologique pour apparaître comme des partis nationalistes kurdes, mais tout en gardant pendant un certain temps donc une dialectique propre au mouvement marxiste et un discours, même s'il ne correspondait pas à la réalité de ce qu'étaient ces partis, propre aux partis marxistes de la région. Et ce qui est vrai pour l'Irak et pour l'Iran l'est également pour la Turquie, mais d'une façon un peu différente, puisque les Kurdes de Turquie ayant été assimilés beaucoup plus que les Kurdes d'Irak et d'Iran, c'est d'abord dans des partis, dans des associations de gauche et d'extrême gauche que le nationalisme kurde va donc se manifester à partir des années 1960, et on va voir là l'émergence d'une société civile kurde qui va donc être dans le cadre de l'émergence d'une société civile de façon plus large en Turquie et de façon plus tardive par rapport à ce qui s'est passé en Irak et en Iran. On voit en 1974 donc émerger un grand parti nationaliste kurde qui lui reste par contre très attaché à ses origines marxistes, donc le parti des travailleurs du Kurdistan, le fameux PKK, qui s'impose donc à partir de 1984, à partir du moment où il revient à la lutte armée, comme le grand parti nationaliste kurde. Mais c'est certainement cette origine commune, idéologique, qui est le trait commun de tous ces partis kurdes. Au-delà de cela, il faut admettre que ces partis se trouvent souvent en confrontation les uns avec les autres, parce qu'ils ont évidemment, ils se trouvent confrontés à des enjeux qui peuvent les mettre donc en concurrence les uns avec les autres, et que c'est d'abord dans le cadre des États où ils se trouvent qu'ils développent des revendications. Alors ces revendications, elles ont été différentes, hein, suivant les pays. Il y a eu une revendication de l'autonomie dans le cadre donc d'un État, notamment en Iran et en Irak, et cette revendication a été davantage portée vers l'indépendance en ce qui concerne les Turcs de Turquie. Mais il faut admettre qu'aujourd'hui, on voit une évolution générale de tous les partis kurdes vers un objectif commun qui sera en quelque sorte le fédéralisme, c'est-à-dire la reconnaissance du fait kurde dans le cadre des États où les Kurdes vivent. Et donc le modèle du fédéralisme est évidemment le fédéralisme que vivent aujourd'hui de façon conflictuelle les Kurdes d'Irak.
Alors j'aimerais que vous me parliez un petit peu de cette région autonome du Kurdistan en Irak, donc dans le nord de l'Irak. On est presque surpris de cette existence, étant donné le sort qui, pendant des années, a été réservé aux Kurdes sous le fait de Saddam Hussein, des villages décimés, des populations massacrées. On ne comprend presque pas ce qui se passe alors en Irak à propos des Kurdes.
L'Irak est effectivement un paradoxe parce que c'est le pays où les Kurdes ont été, avec la Turquie, certainement le plus réprimés avec ce paroxysme de la campagne d'Al-Anfal menée par le régime de Saddam Hussein contre les Kurdes en 1987 et 88. Mais c'est aussi en Irak que les Kurdes ont acquis le plus de droits, et ces droits sont relativement anciens. En 1958, lors de la révolution contre la monarchie hachémite, le premier régime républicain reconnaît officiellement dans la constitution provisoire l'alliance entre le peuple arabe et le peuple kurde, et ce sera notamment visible dans le nouveau drapeau irakien. Et on oublie souvent que la première reconnaissance d'une autonomie kurde date de 1974 et qu'elle est le fait du régime de Saddam Hussein. Saddam Hussein a été le premier, à un moment où il avait besoin d'alliés, qu'il va trouver notamment chez les Kurdes et dans le parti communiste, donc pour pallier à l'absence de base sociale propre. Saddam Hussein va s'allier de façon très éphémère aux Kurdes et reconnaître donc en 1974 une autonomie, mais on sait que cette autonomie va vite être une coquille vide, et on a effectivement une chance historique qui est pour les Kurdes finalement l'invasion du Koweït. L'invasion du Koweït constitue pour les Kurdes une chance historique. Pourquoi ? Parce qu'elle permet le triomphe du facteur extérieur et notamment donc avec la défaite de l'armée irakienne au Koweït, la mise sous tutelle d'une partie importante du territoire irakien avec l'opération Provide Comfort, donc qui soustrait une grande partie du Kurdistan au contrôle de Bagdad. Et on va voir à partir de 1991 de fait une zone autonome qui semble concrétiser finalement tous les rêves des dirigeants kurdes.
Alors rapidement, cette zone autonome en Irak, elle est, Pierre-Jean Louisard, très riche en pétrole, ce qui fait évidemment l'affaire des Kurdes et qui leur donne davantage de poids, je le suppose. Les Kurdes qui, par ailleurs, on peut le rappeler, sont les meilleurs alliés des Américains en Irak.
Alors, pour quelles raisons les Américains et les Alliés se sont-ils engagés dans cette opération qui a permis finalement la constitution d'une région autonome kurde ? Ce n'est pas le pétrole, parce que le pétrole, finalement, il est dans des zones extrêmement disputées, dans des zones mixtes où vivent des populations arabes, turkmènes, kurdes, sunnites et chiites. Le pétrole est dans la région de Kirkouk et au nord et au sud de cette ville, dans des régions qui sont très largement hors du Kurdistan historique et en tout cas des trois provinces qui constituaient donc la région autonome. Et c'est essentiellement pour des raisons humanitaires que les alliés ont été finalement amenés un peu contre leur gré à s'engager dans une politique dont on voit aujourd'hui les effets pervers d'une certaine façon, puisque les alliés ont permis la constitution d'une zone autonome que les Kurdes aujourd'hui voient comme le premier pas vers une indépendance ou vers une autonomie qui serait finalement une indépendance déguisée, alors que tout le monde dans la région refuse donc une telle perspective, et qu'une telle perspective ne peut être dans le contexte actuel qu'une source permanente d'instabilité que ces mêmes alliés aujourd'hui sont obligés de reconnaître, et notamment d'instabilité pour le premier allié des États-Unis dans la région, la Turquie.
Voilà, la Turquie qui est, ce sera ma dernière question, très agacée à propos de cette région autonome. Elle reproche au nord de l'Irak d'abriter des rebelles kurdes turcs.
Tout à fait. La Turquie est la première concernée par l'émergence à ses frontières sud-est, donc d'un quasi-État kurde. Et les Turcs donc ont utilisé le fait que les combattants kurdes de Turquie, le fait que ces combattants aient utilisé le Kurdistan d'Irak comme sanctuaire, comme moyen de pression pour menacer les dirigeants kurdes d'Irak. Et on sait que cette menace est aujourd'hui réelle, dans la mesure où Ankara, derrière ces accusations de collusion entre les Kurdes d'Irak et les Kurdes de Turquie, Ankara refuse finalement donc l'avancée du Kurdistan autonome vers une forme d'État kurde déguisé. Et on craint aujourd'hui dans la région, les dirigeants kurdes en tout cas sont les premiers à le craindre, une intervention turque militaire donc qui mettrait fin à l'expérience, qui est une expérience unique pour les Kurdes de la région et qui a permis, il faut le dire, l'émergence d'une société civile dans le Kurdistan irakien qui n'a peut-être existé nulle part ailleurs au Kurdistan, peut-être à l'exception du Kurdistan de Turquie dans les années 1960 et 1970 avant les coups d'État.
Merci Pierre-Jean Louisard. Je rappelle que vous êtes chercheur, historien, spécialiste de l'islam contemporain. Votre dernier livre, La question irakienne, paru chez Fayard. Décryptage était signé Delphine de Dianous et Marie-France Châtain-Laroche. À la réalisation, Didier Bleu, Richard Rifono à la technique. Merci également à la documentation de RFI pour son précieux travail. À demain.